C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bonne journée, bienvenue au 98.5. On prévoit une journée splendide. C'est du soleil mur à mur pour Montréal. On a déjà 11 degrés et le maximum aujourd'hui autour de 25. C'est quasi une journée d'été avec peut-être un peu de pluie en fin de soirée, durant la nuit principalement. Quelques nuages, mercure autour de 14 degrés. Et puis pour vendredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Il y aura peut-être des averses tôt le matin, c'est un peu comme pour terminer la nuit, avec un humidex de 28 durant la nuit. C'est quand même vraiment des nuits chaudes. Et pour la journée de samedi et de dimanche, ben on prévoit du soleil, des températures autour de 18, 20, 21 degrés. D'entrée de jeu, je vous dis qu'il y a trois policiers de la police de l'Ontario, police provinciale, qui ont été blessés à Bourget. C'est une municipalité dans l'Est ontarien, c'est tout près d'Ottawa. Et il semble que les trois policiers ont été blessés par balle lors d'une intervention. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres détails. Il semble en tout cas qu'il n'y a pas de suspects recherchés. Alors, de quelle façon ces policiers ont été blessés? Quel est le contexte? Quel est leur état aussi de santé? Ça demeure pour l'instant très nébuleux. Maintenant, nous allons parler ce matin de Donald Trump, qui est un phénomène en soi. Et au lendemain de sa condamnation, où on l'a pointé, un jury a déterminé qu'il était responsable d'une agression sexuelle et l'a condamné aussi pour diffamation pour un total de 5 millions. Il se présente à la télé dans ce qu'on appelle un town hall, une espèce de forum organisé par CNN, un réseau qu'il méprise. Et vous avez une animatrice qui est là pour lui poser des questions. Il ne l'écoute pas. Il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire narcissique, hautain. Et toutes les questions qui lui sont posées tournent évidemment sur les sujets d'actualité. Puis je vous donne un exemple ce matin, et on va l'écouter. C'est un court extrait. Quand on lui dit, dans le cas par exemple de l'avortement, on sait que le débat repart aux États-Unis, en fait, depuis plusieurs mois, puis est en train de redémarrer en douce au Canada. On le voit surtout du côté du Canada anglais. Alors, il se dit fier d'avoir contribué à la décision d'invalider l'arrêt sur l'avortement, et il a fait ça, dit-il, en plaçant des juges à la Cour suprême.
It was such a great victory, and getting rid of Roe v. Wade was an incredible thing for pro-life because it gave pro-life something to negotiate with. Pro-life had absolutely nothing being stuck in Roe v. Wade to negotiate with. I consider the other side to be radical. Remember the debate with Hillary Clinton? I said, rip the baby out of the womb at the end of the ninth month. They will kill the baby in the ninth month.
Alors, il est très fier d'avoir relancé ce débat sur l'avortement et fait en sorte qu'on ait compliqué la vie des femmes qui se font avorter, parce que pour lui, ça demeure des meurtres d'enfants. Il continue de répéter qu'il a été volé, que c'est lui qui a gagné l'élection. Et quand vous faites le tour de ses commentaires, et je dirais qu'il y a une bonne partie de la foule présente à ce temps d'ordre qui était dans le New Hampshire, là, un des premiers États où il y aura des élections primaires, était favorable à Trump. Et il a un peu minimisé cette condamnation qui lui est arrivée cette semaine. Et il prétend qu'il aurait réglé la guerre en Ukraine en 24 heures. Alors, comme je vous dis, c'est du Trump, c'est-à-dire des injures, de la provocation et surtout des mensonges, triture les faits. Mais visiblement, ça change pas grand-chose et ça attire. Maintenant, la presse nous apprend ce matin que des personnalités qui ont des dossiers médicaux sont peut-être victimes de certains fouineurs dans le réseau de la santé. L'histoire qu'on raconte, c'est celle de Véronique Cloutier, qui est allée à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil pour la dernière fois en 2012. Et vous pouvez le faire comme citoyen, demander non seulement l'accès à votre dossier médical, mais pour voir qui sont les gens qui l'ont consulté. Alors que votre médecin le fasse normal, que des spécialistes, que des gens de laboratoire le fassent, il n'y a rien là. Mais tu dis, mais pourquoi après 2012, des gens se sont intéressés au dossier médical de Véronique Cloutier, si ce n'est que c'est Véronique Cloutier, puis que c'est une star, un peu comme des gens fouinaient dans les déclarations de revenus de personnalité. Donc, la presse nous dit que c'est un cas, puis qu'il y en a probablement plusieurs, qu'il y a des milliers de violations du secret médical qui ont eu lieu. Et on se rend compte également que, parce qu'il y a eu des décisions dans le passé, des gens qui ont été sanctionnés pour avoir fouillé dans les dossiers sans nécessité, que dans le cas de Véronique, les gens qui sont allés voir, là, c'est quand même particulier, là, des gens que un inhalothérapeute qui a consulté ses renseignements, mais quatre jours après la naissance de sa fille. Puis elle avait quitté l'hôpital, puis elle avait pas il n'y avait pas de motif pour ça. On apprend que 5 infirmières, 5 agentes administratives, 3 médecins, 2 stagiaires sont allés voir son dossier. Et pourtant, on n'a pas grave de faire de lien. Et même l'hôpital reconnaît qu'il y a un problème, là. Alors, comment vous voulez vous assurer que les accès, puis pas juste des gens connus, là, c'est sûr que si vous voyez quelqu'un de connu à l'hôpital, ben il y en a qui vont être tentés d'aller se mettre le nez dans le dossier. Qu'est-ce qu'elle a, puis pourquoi elle est ici, puis bon. Puis c'est la même chose pour l'impôt. Je sais que dans le cas de l'impôt, pour des gens, disons, qui ont un niveau de notoriété, ils vont s'assurer que l'accès à leurs informations personnelles soit réservé aux gens pour qui c'est nécessaire, pour éviter les ouéreux, les gens qui vont sentir, puis qui veulent juste, évidemment, faire un peu de mémérage. Mais c'est intéressant. Elle dit, Véronique Cloutier, qu'elle n'est pas choquée, mais évidemment, c'est dérangeant de savoir que, sans motif, des gens vont, comme ça, fouiller dans ta vie privée. Puisqu'on parle de santé, il y a une entente qui a été conclue entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes pour diminuer les attentes en chirurgie. C'est pas la première fois là, qu'il y a une entente, mais là, on nous garantit que c'est réaliste et que on va pouvoir graduellement s'assurer que la liste d'attente revienne à une dimension normale. Ce que l'on prévoit, d'ici la fin de 2024, donc c'est pas tout de suite, là, il y aura 2500 patients sur une liste d'attente en chirurgie. Actuellement, il y en a plus de 17 000. Comment on va faire ça? Ben, par des ouvertures de blocs opératoires en heures prolongées. Alors, ça veut dire le soir, puis ça veut dire en fin de journée, parce que rendu à 2-3 heures, là, on commence pas une nouvelle opération. Ce qui fait que il y a du temps disponible, les médecins pourraient le faire, mais le système, la gestion, limite ce nombre d'interventions. Puis on veut donc opérer le soir, la fin de semaine, les journées fériées. Et ça sera pas du temps supplémentaire obligatoire, ce sera sur une base vraiment volontaire, des employés qui veulent le faire. Les médecins sont prêts à opérer. La plupart des chirurgiens vont vous le dire, là, ceux qui interviennent, là, ils veulent travailler. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de priorité opératoire. Mais il y a une question, par exemple. Je reçois beaucoup de courriels de d'autres professionnels de la santé qui disent... il va se passer quoi dans notre cas? Je vous donne l'exemple d'une technologiste médicale qui travaille dans un laboratoire de pathologie d'un centre hospitalier. Et elle dit, puis elle décrit son travail et tout ça, puis elle doit faire des analyses, par exemple, pendant qu'il y a une chirurgie, que le médecin a besoin d'avoir certains résultats qui sont importants. Donc, un rapport qui est demandé rapidement, pour pouvoir poursuivre la chirurgie. Il y a des délais, par exemple, inférieurs à 30 minutes parce que le patient est sur la table d'opération. Et là, elle soulève la question, est-ce qu'on va m'offrir la même chose? Quelles seront les conditions de temps supplémentaire, prime? Donc, j'ai hâte de voir comment tous ces fils-là vont s'attacher. Puis on va en parler avec le président de la Fédération des médecins spécialistes, le docteur Vincent Oliva. Puis il y a même des physiothérapeutes qui se disent prêts à se déployer dans les salles d'urgence pour réduire l'attente, surtout qu'il y a un contact humain entre des gens qui sont pas bien, puis qui sont assis sur des chaises droites, puis qui attendent pendant des heures d'être vus. Revenons sur la controverse autour de la fête des mères, la fête des pères, et de façon plus large, la fête des parents. Quels sont les faits? C'est une école de Québec, quelques enseignantes, 3 classes, qui ont décidé de faire en sorte que les bricolages, qui normalement sont faits dans le cadre de la fête des pères ou de la fête des mères, soient faits dans le cadre de la fête des parents. On fait le bricolage, puis vous le donnez à la personne que vous décidez au moment qui vous paraît correct. Est-ce que c'est dimanche prochain? Est-ce que vous attendez la fête des pères, la fête des parents au mois de juin? Peu importe. Pourquoi? Parce que il y a des enfants qui vivent des situations particulières. Des enfants de la DPJ, des enfants qui, par exemple, ont été retirés de leur milieu. Je voyais hier une présidente syndicale qui disait, je pense, ou une représentante, que dans une classe, un des enfants, son père s'est suicidé. Donc, est-ce que tu vas y mettre la face dans la fête des pères pour lui rappeler ça? Je comprends tout ça. J'ai vu également la capacité assez extraordinaire d'Éric Duhaime de récupérer le mouvement puis de poser des questions de façon tout à fait ridicule. Je me pose la question, j'espère que non. C'est une espèce de stratégie assez bas de gamme pour mettre du carburant dans l'affaire. La fête des pères, la fête des mères, ce sont des symboles. Et comme tout symbole, il y a des gens qui adhèrent très fortement, puis d'autres moyennement, puis d'autres pas du tout. Et je comprends que la réalité change. Puis là, je vois que les centres de services scolaires font marche arrière en raison des réactions des parents. Et là, les parents, je le vois, là, les commentaires, je les entends, je les lis, là. C'est ça. On pourra pas fêter l'Halloween, puis là, Pâques, ça va être terminé, puis gardez bien à Noël ce qui va arriver, puis bon. Puis là, c'est la tirade contre les woke. Je vais vous dire deux choses là-dessus, et c'est très personnel, puis évidemment, je pense qu'une majorité de gens ne sera pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux profs. Si une année, dans une classe, ça peut être problématique, il y a des profs qui peuvent habilement contourner l'affaire pour la fête des pères ou la fête des mères. La seule chose que moi je veux éviter, là, c'est que ça devienne une espèce de ligne de conduite établie par un centre de service scolaire ou par pire, par le ministère, pour l'ensemble des écoles. Je pense que les profs ont assez de jugement. Puis ils peuvent en parler aux parents, puis expliquer. Puis les parents, de façon générale, devraient être assez matures pour comprendre ça. Alors, ce qu'on a vu, c'est un problème maladroit de communication de profs avec les parents qui ont pris ça, puis qui ont dit, mais ça y est, ils sont en train de faire disparaître les mères, puis les pères, puis c'est épouvantable. Une auditrice m'a écrit, j'ai trouvé ça très drôle. Elle est présentement en voyage en Corée du Sud. Et elle dit, je suis là depuis 2 mois, puis en Corée du Sud, ils se cassent peut-être un peu moins la tête. Il y a eu la fête des enfants le dernier vendredi d'avril, la fête des parents le 1er mai, et il y a maintenant aussi la fête de la famille monoparentale. Fait qu'on fête beaucoup. Puis c'est important, la famille, peu importe le visage qu'elle a. Mais la récupération bas de gamme, je trouve ça toujours un peu énervant. Maintenant, vous avez les directeurs de police qui demandent des changements importants dans les lois pour éviter que des criminels violents récidivent. Et on a vu, bien sûr, au cours des derniers mois, 8 policiers qui ont été tués en service au Canada. C'est depuis le mois de septembre. Vous avez les détails dans la presse de ce matin. Et on connaît tous la problématique, la toxicomanie, des problèmes également de santé mentale. Souvent, on peut combiner les deux. Alors, on demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte, justement, que les policiers soient mieux informés et que ceux qui sont des gens violents, des crackpots finis, là, qu'on laisse sortir parce qu'on est humain puis qu'on croit à la réhabilitation à tout craint, là, ben, qu'eux aient à faire la preuve de leurs problèmes. Et surtout, faire la preuve qu'ils vont mieux. Et combien d'individus sortent avec l'étiquette, on pense qu'ils représentent encore un danger? Puis est-ce que les policiers pourraient au moins aussi avoir cette information-là? Vous vous souvenez de M. Robert Mueller, ce milliardaire montréalais très discret? L'émission Enquête a dévoilé comment pendant des années, il a, pêché dans un réseau de jeunes filles, dans des... écoles secondaires, tout ça à des fins de prostitution. il y avait son club de rabatteurs, selon ce qu'on a pu comprendre à l'émission Enquête, et il payait très cher et donnait des cadeaux. Alors, on apprend qu'il y a une femme qui poursuit le réseau Miller. C'est Vincent Larouche qui nous apprend ça ce matin. Elle réclame 8 millions. Elle a été recrutée alors qu'elle était dans une école secondaire. Et, issue d'un milieu pas très riche, elle a basculé beaucoup de cadeaux et elle a été sous l'emprise de M. Miller pendant des années. Elle raconte même dans sa poursuite qu'elle a pris un peu de poids et que Miller lui a payé un séjour dans le Vermont dans une clinique pour maigrir parce qu'il voulait avoir des petites filles parfaites. Et la poursuite vise également l'hôtel Reine-Élisabeth parce qu'on a cru comprendre que l'hôtel fermait les yeux sur la présence de ces mineurs à l'intérieur et que c'était un secret de polichinelle de savoir que Miller recevait ses adolescentes dans cet hôtel. Alors, la poursuite a été déposée, on verra, pour la suite des choses. Rapidement, je fais le tour des autres nouvelles. La mairesse, Valérie Plante sera avec nous tantôt. Alors, on va parler de stationnement, on va parler également de Publisac et aussi des rues piétonnes dans le Vieux-Montréal. Il y a beaucoup de citoyens qui se posent la question. Comment ça va s'organiser? Puis j'ai une voiture, puis bon. Alors, on va faire le tour de ces questions-là. Et je vais terminer ce matin par l'immigration. On a commencé la semaine avec un débat. Puis là, M. Trudeau qui répète encore hier, là, qu'il veut hausser le nombre d'immigrants qui viennent au Canada et donc viennent au Québec. Quand vous regardez la machine, je vous donne pratiquement tous les jours des exemples de ratés dans le système. Et là, Québec fait attendre ses réfugiés. Ça, on lit ça ce matin, c'est dans le Devoir. Radio-Canada, une autre histoire, complètement loufoque de bureaucratie. Famille belge, monsieur travaille ici, dans le domaine médical. Son employeur est en Ontario, et quand il reçoit sa paye, ça vient de l'Ontario, OK? Là, il y a un fonds au ministère de l'Immigration qui dit, « Ah, mais vous travaillez en Ontario. » Non, non, mon employeur est en Ontario. Ma paye est émise par l'employeur en Ontario, mais je travaille ici. Ça fait 3 ans que je vis à Montréal, que je paye mes impôts au Québec, putain. Oui, mais votre chien qui est fait... C'est hallucinant, là. Et les francophones se font empissoter. Quand j'entends, exemple, le ministre Fitzgibbon qui dit « Faut que ceux qui viennent ici parlent français puis qu'ils apprennent le français. » Mais on peut-tu les attirer, pas les emmerder, comme on le fait actuellement? Et ça arrive en cette journée où, aux États-Unis, on va davantage ouvrir les frontières qui étaient fermées. Il y avait une disposition, la fameuse clause 42, en raison de la pandémie. Mais là, on va ouvrir. Et ce qu'on observe aux États-Unis, en provenance du Mexique, c'est un feu roulant de migrants qui viennent du Venezuela, qui viennent du Guatemala. Et le Mexique, là, c'est comme si, entrez donc, on vous suit jusqu'à la sortie du côté américain. Puis une fois aux États-Unis, ben là, on tente de les déployer ailleurs. Et vous allez voir aujourd'hui, puis on va aller à El Paso, au Texas, qui est une des portes d'entrée, voir comment cette journée va se dérouler.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On sait qu'il y a plusieurs dossiers importants, des dossiers chauds qui concernent Montréal, et on va faire le point avec un certain nombre d'entre eux ce matin, avec donc la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Ben, je vais vous poser une première question, peut-être un peu plus personnelle. Comment vous allez? Parce qu'on a vu que vous aviez dû vous absenter d'un point de presse en raison d'un malaise, a-t-on dit.
Oui, ben écoutez, merci de demander, mais je vais bien là. Ça disons que grosse journée, puis un petit peu d'hypoglycémie mal gérée ce matin là, mais je vais très très bien.
Parfait, bonne nouvelle. On va regarder ensemble quelques dossiers. Je veux parler de la police. D'abord, il y a une entente de conclu, l'entente de principe avec les policiers de Montréal. Ça, c'est une chose. On a vu également des chiffres concernant la criminalité pour les 3 premiers mois de l'année, que ce soit dans le métro, les crimes contre la personne, les crimes contre la propriété. Votre chef de police, le nouveau chef, est inquiet pour l'été. Parce qu'on sait que l'été, il y a toujours des épisodes de violence qui éclatent. Êtes-vous inquiète?
Je vous dirais pas que je suis inquiète, mais définitivement, on est très conscient, et c'est la même chose pour M. Daguerre, là, on est conscient que tout doit être mis en place en sachant que tous les étés, bon an, mal an, il y a toujours une augmentation là, de la violence. Donc, dès ce mardi, M. Daguerre va présenter son bilan de ses 100 premiers jours, mais également partager quel est le plan match pour cet été.
Il y a actuellement les directeurs de police qui sont en réunion, qui ont émis un communiqué et qui demandent au gouvernement de modifier des lois pour leur permettre d'appréhender plus facilement des récidivistes violents, mais ils soulignent aussi l'importance de permettre aux policiers de faire des interpellations aléatoires. Puis là, c'est tout un débat. Quand je fais une interpellation, est-ce qu'il y a un côté discriminatoire, raciste derrière ça? Les policiers vont vous dire non, on a une raison d'intervenir. Vous dites quoi aux policiers là qui ont besoin, disent-ils, de cet outil pour faire leur job, notamment quand on a des épisodes de violence à Montréal?
Ben, vous avez raison de dire que les policiers doivent pouvoir faire leur travail. C'est ce qu'ils nous demandent. Et ça, pour moi, là, j'adhère complètement à cette idée-là. Par contre, pas seulement par contre, mais de réfléchir à comment on veut mieux encadrer les interpellations. Pour moi, ça, je pense que ça va dans l'ordre des choses. Il faut toujours regarder nos pratiques. Il faut évaluer est-ce qu'on fait bien les choses. Donc, avec M. Daguerre aussi, on a cette approche de dire on va pas défendre l'indéfendable, mais il faut pouvoir bien encadrer pour toujours défendre les policiers quand ils font leur travail, quand ils le font bien. Et ça, pour moi, c'est une philosophie de M. Daguerre à laquelle j'adhère énormément. Donc, on va laisser nous, on a demandé une étude indépendante face aux interpellations pour pouvoir faire un ménage, pour pouvoir dégager des constats. Et à partir de là, on va accompagner les policiers et policières. Mais dans tous les cas, que ce soit avec la négociation de la convention collective ou encore avec les outils, on est très conscient à la Ville de Montréal qu'on doit soutenir les policiers, on doit les recruter, les encourager à venir travailler à Montréal parce que c'est stimulant, mais ça amène tout un lot de défis. Et comment est-ce qu'on fait de la rétention pour que les policiers et policières restent à Montréal? Parce que cette expérience-là, on en a besoin.
Parce que plusieurs perçoivent un signal en disant « si je peux pas interpeller ou si je le fais, je me place dans une situation conflictuelle, je vais lever le pied, je vais faire ma patrouille, je vais répondre aux appels, puis ça va s'arrêter là. »
Ben, écoutez, c'est sûr que il peut avoir ce message-là, mais moi, quand je parle aux policiers et policières, ce qui se dégage, c'est que c'est des gens qui sont très mobilisés, ils veulent sentir qu'ils ont l'appui tout d'abord de leur chef de police, de la mairesse de Montréal. Je pense qu'ils comprennent que dans le contexte actuel, on doit nécessairement raffiner certaines approches ou techniques. C'est normal, c'est dans la force des choses, mais toujours dans l'idée de protéger la population, puis l'augmentation de la violence armée à Montréal, bien qu'elle soit très loin de ce qu'on voit ailleurs au pays ou en Amérique du Nord, on veut garder ce caractère sécuritaire-là.
Parlons du Vieux-Montréal. Vous avez annoncé donc l'intention de faire un quadrilatère strictement réservé aux piétons. C'est flou un peu. Vous pensez à quoi exactement? On sait que la rue Saint-Paul est fermée durant l'été, là, mais qu'est-ce que vous avez en tête?
Mais écoutez, c'est sûr, c'est la question qu'on m'a beaucoup demandé depuis l'annonce. Et je peux pas m'avancer vraiment sur à quoi va ressembler le quadrilatère parce que l'idée, c'est de le développer avec les partenaires. On a rencontré déjà la table de concertation du Vieux-Montréal le 30 mars dernier. Ça regroupe les associations de résidents, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, plein de partenaires. Mais on n'a pas un plan précis. On veut le développer avec eux parce qu'on sait qu'il y a des enjeux au niveau des livraisons, certains accès à des cours arrière. Donc, il y a plein de petits défis. Mais je suis très heureuse que ce soit bien reçu de façon générale parce que l'expérience piéton dans le Vieux-Montréal, elle est unique. Je pense qu'on va gagner à la bonifier, mais je veux bien le faire.
Mais est-ce qu'on comprend que ce sera un petit, un moyen ou un gros quadrilatère?
Ben écoutez, nécessairement, quand on fait une annonce comme celle-là, on souhaite que ça ait une certaine envergure. Mais il y a une chose que on a bien appris avec le développement des rues piétonnes ailleurs à Montréal, c'est que parfois, ça vaut la peine de commencer plus petit et d'agrandir le modèle. Mais c'est sûr qu'on va vouloir que ça ait un effet. Il faut que ça se fasse. Wow! On s'en va dans le Vieux-Montréal parce qu'on sait qu'on va pouvoir se promener dans plein de petites rues, puis il va y avoir plein de restaurants qui vont vouloir mettre des terrasses. Je dois vous dire que la réception est somme toute très enthousiaste parce que les commerçants, restaurateurs voient le potentiel non seulement d'achalandage, mais aussi de vente.
OK, parlons des parcomètres au centre-ville. Là, il y a un moratoire qui a été décrété et qui sera prolongé parce que, dites-vous, vous devez aussi consulter. Ce qui est dur à croire, Mme Plante, là, c'est que l'organisme responsable des parcomètres a imprimé des collants, les a posés, annonçant qu'on prolongeait les heures payantes, exemple jusqu'à 23 heures, ou encore plus tôt le dimanche matin. Moi, j'ai l'impression, puis j'ai vu des documents passer, que c'était ça qui était votre plan, que c'est ça que vous vouliez faire. Puis moi, vous me dites, j'ai besoin de plus d'argent, je prolonge les parcomètres. Fine. Mais de voir que là, non, c'est une mauvaise initiative et un problème de communication, j'ai de la misère à croire ça.
Ben, d'une part, ça n'a jamais été présenté, ou même encore aujourd'hui, je peux pas vous dire que c'est une question d'argent. Là, c'est pas la première motivation. On va le prendre, là, les sommes. Là, je suis pas en train de dire qu'on les veut pas, mais je tiens quand même à dire que c'est pas la motivation première. Puis honnêtement, M. Arcand, je vous le dis, là, oui, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit. À l'Agence de mobilité, c'est écrit dans les livres, c'est écrit dans le budget. Mais la façon dont ça a été fait, quand vous dites, voyons donc, ça n'a pas de bon sens que la ville ne sache pas qu'il y avait des étiquettes d'imprimer puis qu'on les a mis, bien, c'est gros, la ville. Puis oui, des fois, il y a des erreurs qui se produisent. Je peux pas vous dire autrement que ça. Et là, dans les deux dernières semaines, puis je sais que vous avez dit, voyons donc, en deux semaines, ils n'auront pas le temps de jaser puis de consulter. Honnêtement, on est bien avancé. Mais moi, ce que je veux pas faire, c'est une deuxième fois de prendre les gens par surprise puis que ça soit fait tout croche. Fait qu'au terme des deux semaines, je pense que bientôt, on va être capable d'arriver avec une annonce. Mais ce que je veux dire à l'ensemble des commerçants, c'est que, bon, vous avez besoin de prévisibilité, puis ça, on respecte ça. Fait qu'il n'y a rien qui va bouger avant la fin de l'été. D'ici là, pas de changement, mais on va vous proposer, on va présenter publiquement une proposition parce que les discussions vont vraiment très bien avec l'ensemble des partenaires dans le centre-ville.
OK, mais ce que je veux vous dire, par exemple, là, c'est que ces collants-là ont été posés. Il y a quelqu'un qui les a commandés, il y a quelqu'un qui les a autorisés. Ça faisait partie d'un plan. C'est une personne qui a pris une initiative non autorisée?
Ben, écoutez, on a refait le chemin de haut en bas, là. On a tout regardé, puis clairement, il y a des communications qui ont eu lieu, mais qui ne sont pas rendues aux bons endroits, dont à mon cabinet. Donc, puis je suis aussi la mairesse de Ville-Marie. Enfin, je ne vous cacherai pas mon malaise face à cette situation-là. Je porte deux chapeaux là où ça m'affecte directement. Je n'étais pas contente, c'est évident. Mais encore une fois, quand on regarde, là, quand on a présenté le budget, dans la ligne de l'Agence d'autorité de la mobilité durable, c'est dit qu'on va optimiser les stationnements. Tout est là, mais le détail n'est pas spécifique. Et nous, la façon dont on travaille d'habitude, c'est qu'on le présente aux partenaires. Puis à partir de là, on fait un plan de communication, on informe. Donc, on prend pas les gens par surprise. Donc, c'est ouais. Vraiment désolant. Là.
Je sais pas où vous en êtes donc dans vos consultations. Là, vous l'avez dit un peu, mais je vous donne l'exemple de commentaires que je reçois. Jusqu'à 23 heures le soir, pense pas que ça soit un enjeu important. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui viennent d'ailleurs sur l'île ou encore de la banlieue. Le dimanche matin, ils viennent bruncher à Montréal ou encore ils vont vers un musée. Puis là, ils se disent, on avait comme une période de grâce pendant quelques heures. Allez-vous leur enlever ça?
Honnêtement, là, à ce moment-ci, moi, je peux absolument pas m'avancer, mais ce que je peux vous dire, c'est que peu importe si on change les heures, parce que ça aussi, c'est sur la table, on en discute avec les partenaires, là. Mais si on le fait, ça va être une décision concertée, là. On va pas bouger tout seul. Puis j'entends ce que vous dites, mais il y a d'autres commerçants qui vont dire, ben, ou des restaurateurs qui vont dire, ben, nous, on le veut, le roulement devant notre restaurant le dimanche matin. Fait que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ça que j'essaie d'amener. Mais je comprends ce que certains de vos auditeurs amènent, là, puis c'est un bon point. Mais il y a aussi le contrepoint. Mais dans tous les cas, ça va être bien attaché la prochaine fois.
Bon, les Publisacs, là, on va les recevoir ou pas par Poste Canada?
Ben, on va les recevoir parce que Poste Canada a décidé que ça n'a pas d'importance les règlements puis de Montréal, puis ça n'a pas d'importance la volonté des Montréalais. Donc, moi, je suis rendue en appeler à tous les députés puis les ministres sur le territoire de l'île de Montréal. Là, c'est pas mal les mêmes électeurs. Puis c'est absolument, moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça désolant qu'une société d'État comme Poste Canada, qui partage les mêmes objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de transition écologique, disent, ouais, ben, sauf pour cet élément-là. alors que c'est un modèle basé sur le gaspillage. C'est complètement, ça va à contre-courant.
Vous croyez pas,
que tout le monde
fait. Ouais, vous croyez pas à la version écologique présentée par Transcontinental du Publisac, là, vous?
Ben, écoutez, moi, je suis quand même contente que grâce à, le moment où on a déposé notre règlement, Transcontinental a dit, bon, ben, OK, on va faire des efforts. Entre vous et moi, ça aurait dû être fait bien avant. Bravo, mais est-ce que c'est assez? À ce temps, dans la lutte au changement climatique, c'est pas juste de réduire, pas juste de recycler, il faut réduire à la source le nombre de ballots qui se ramassent dans nos cours, dans nos centres de recyclage. C'est inacceptable. Moi, j'en reviens pas qu'on ait cette discussion-là en ce moment avec Post Canada. Et j'espère que les députés, les ministres fédéraux vont se dire, ben non, c'est vrai, les Montréalais, ils en veulent pas de ce gaspillage-là.
En parlant de la lutte au changement climatique, l'Union des municipalités s'est fait répondre non par le ministre Charrette pour être priorisée dans ce qu'on appelle le fonds vert là, pour financer justement les travaux pour préparer les villes au changement climatique. Là. Le Québec n'a pas l'air beaucoup de porter attention aux propos des élus municipaux. Mmh.
Ben écoutez, c'est sûr que je suis déçue là, de la réponse du ministre Charrette. Surtout qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, la ministre responsable des municipalités, Mme Laforêt, avait dit « Inquiétez-vous pas, le ministre Charrette a des bonnes nouvelles pour vous ». Donc, non seulement les nouvelles sont pas là, le ton aussi était assez particulier, mais je vais vous dire ce que je trouve décevant, c'est que le gouvernement du Québec, je pense vraiment qu'il se prive d'une occasion en or. En travaillant avec les villes, on est prêt à prendre la chaleur, on est prêt à travailler sur le terrain, on a des projets, on a une étude sérieuse, rigoureuse qui montre où on doit investir. J'ai l'impression qu'on leur apporte une réponse, des solutions sur un plateau d'argent, puis ils ne prennent pas. Alors que je pense que c'est décevant, puis la population le sent de plus en plus que les maires, mairesses, les municipalités, on n'est pas mis à contribution à la hauteur de ce qu'on peut faire puis de ce qu'on veut faire.
J'ai deux questions en terminant. La première, comment vous avez trouvé ça, la présence, j'allais dire une bûche ou un bout de tronc d'arbre sur une auto sur la rue Benny Crescent pendant 3 semaines? Les gens ont coupé autour, mais ils ont laissé le bout. Ça a duré 3 semaines.
Ah, c'est... Quand j'ai vu cette histoire-là, je me disais, voyons donc, comment ça se fait qu'on est rendu à couper tout autour, comme vous dites, puis laisser le bout d'arbre? Bon, ça n'est pas la norme. Tout le monde a travaillé très fort. J'aurais voulu que ça allait toujours plus vite, mais c'est pas moi qui est derrière la chaîne de ça. Fait que je respecte le travail quand même des cols bleus puis des gens même qu'on a engagés de l'externe. On a ouvert les clés comptables à la ville centre pour dire aux arrondissements faut sortir le tout. Alors bien sûr, je trouve ça un peu aberrant là. C'est pas représentatif du travail, c'est ce que je veux dire.
Ok. La dernière question controversée, êtes-vous fête des mères ou fête des parents?
Ah, mon Dieu, et M. Arcan, là, si vous saviez comment... Moi, là, je vais pas jouer dans ce film-là. Je sais pas si vous vous rappelez une fois, j'ai déjà parlé de changer la date de l'Halloween.
Oui, mais là, c'était en fonction de la météo, ça.
Alors, honnêtement, j'ai tellement de chats à fouetter, des gros dossiers, que honnêtement, je n'ai aucune opinion là-dessus.
C'est correct. Bonne journée, Mme Plante.
Merci, vous aussi.
Au revoir. Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Vous attendez une chirurgie depuis plus d'un an. Vous n'êtes pas seul. 17 000 Québécois, selon les derniers relevés, attendent donc cette opération. Et l'entente signée entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes a comme cible de ramener le nombre de ces patients, si vous voulez, à 2500 d'ici la fin de l'année 2024. Donc, pas cette année, mais l'an prochain. Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec est avec nous, Dr. Vincent Oliva. Dr. Oliva, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, vous allez faire ça comment, là? Qu'est-ce qui va être différent? Puis comment vous allez, je dirais, réussir à atteindre la cible?
Ouais, ben d'abord, la cible, c'est le ministre de la Santé qui l'a fixée. Nous, dans le fond, ce qu'on lui a dit, c'est les médecins sont mobilisés. On a réuni tous les médecins des associations chirurgicales, les anesthésiologistes, les pathologistes qui font partie de la boucle. Et ils nous ont dit, nous, on est prêts à en faire plus. Donc, organisons-nous pour mettre sur la table un plan qui est réaliste, qui fait en sorte que nous, on lève la main Et faut comprendre aussi que dans ça, vous le savez, il y a la notion de temps supplémentaire volontaire, mais il y a aussi l'amélioration du fonctionnement des blocs opératoires le jour.
Quand vous dites une amélioration du fonctionnement des blocs le jour, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, ça veut dire qu'un bloc opératoire, normalement, ça fonctionne, disons, là, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, mais souvent, il y a des cas en fin de programme qui sont annulés parce qu'on a peur de déborder. Il y a aussi des problèmes de fluidité. Vous savez, le réseau, on le dit souvent, oui, il manque de personnel, ça, on le sait, mais il y a aussi des problèmes d'organisation. Des fois, il y a des patients qui sont annulés parce qu'ils n'ont pas leur test à temps. Des fois, c'est le transport qui est déficient. Moi, j'ai des médecins qui m'écrivent et qui me disent, ben moi, dans la dernière année, je suis allé chercher des patients moi-même à l'étage parce qu'ils descendaient pas assez vite. Fait que toutes sortes de délais qui font en sorte que faut comprendre que c'est un peu analogue à une chaîne de montage. Il y a beaucoup, beaucoup de gens impliqués pour faire descendre le patient, l'opérer, le remonter, etc. Donc, les petits délais entre les patients, tout ça, ça peut être amélioré. Puis si on se donne ou on donne au PDG le mandat d'améliorer le fonctionnement puis la fluidité du bloc opératoire, ben on pense qu'on peut peut-être opérer un patient de plus dans chaque opératoire par jour, là.
Bon, il y a des auditeurs qui m'envoient des questions, puis j'en soumets quelques-unes, là. La première, c'est est-ce que, comme déjà on sait que les lits sont à 100% occupés, que les urgences débordent, vous allez prioriser des chirurgies qui font qu'au bout de 24 heures, le patient est moins que ça, là, est sorti. Donc, des chirurgies d'un jour.
En fait, nous, ce qu'on demande, puis ce qu'on met dans le plan, c'est prioriser les patients hors délai. On ne veut pas que ce soit un plan, comme on dit, top-down, imposer une camisole de force parce qu'on sait que les milieux de soins ont des mandats, des missions, des vocations très différentes. Il y en a qui ont des clientèles plus oncologiques, orthopédiques. Donc, on veut qu'il y ait une souplesse dans les milieux. On prône beaucoup la gestion de proximité, la marge de manœuvre qu'on veut donner aux hôpitaux. Alors, c'est l'esprit aussi de cette entente. Alors, si un hôpital juge que eux, dans leur situation, ben c'est des chirurgies de plus qu'un an hors délai, c'est ça qu'ils peuvent prioriser. D'autres, ça pourrait être, par exemple, des chirurgies oncologiques hors délai.
OK, mais ce que les gens veulent savoir, si, par exemple, eux, ils attendent une chirurgie d'un jour, est-ce qu'ils risquent d'attendre plus longtemps, c'est-à-dire passer plus vite que quelqu'un qui doit être à l'hôpital 3 jours?
Non, pas nécessairement, okay. Parce que dans ce plan-là aussi, ce qui va être donné comme mandat au PDG, c'est d'améliorer l'accessibilité au lit également. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que le plan est hospitalier, c'est parce que l'infrastructure hospitalière permet de faire des chirurgies. Oui, ils peuvent faire des chirurgies d'un jour, mais ils peuvent faire des chirurgies très lourdes aussi. Puis ça, c'est des points qu'on a discutés avec les différentes associations médicales. Donc, non, ce sera pas nécessairement seulement les chirurgies d'un jour. C'est l'ensemble des chirurgies, mais comme je vous disais, avec une certaine marge de manœuvre pour que les hôpitaux puissent cibler les clientèles qui sont appropriées.
OK. Je reçois un courriel de quelqu'un qui est technologiste médical et qui me dit... on comprend, c'est bien beau tout ça, mais nous, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on est quand même présent en parallèle souvent. Le chirurgien doit savoir, par exemple, s'il a enlevé assez de tissu sain selon la grosseur de la tumeur. On nous demande de rapidement donner un résultat pendant que le patient est encore sur la table d'opération. Est-ce que vous avez attaché tous les fils avec tous les gens qui entourent une intervention chirurgicale?
On a attaché une partie des fils. En fait, ça a été un travail de mobilisation de plusieurs semaines, voire mois, avec toutes les associations concernées. Et ce dont vous parlez, ce sont les pathologistes qui effectivement font partie de la boucle et examinent les pièces. Et oui, là-dedans aussi, on va tenir compte de ce personnel-là qui doit effectivement parfois être présent pour récupérer les spécimens, puis donc être sûr qu'ils sont traités de la bonne façon. Donc, c'est sûr que il y a une entente de principe. On sait ce sur quoi on va devoir travailler. Et après ça, c'est sûr qu'il reste quelques fils à attacher, mais ces détails-là vont être prévus dans l'entente.
Est-ce que, en terminant, ça peut vouloir dire qu'un Québécois pourrait se faire appeler et dire « Votre chirurgie est prévue samedi après-midi au CHUM »
Ben, c'est possible. C'est possible. En fait, nous, ce qu'on souhaite, on a mis des conditions gagnantes pour que les équipes puissent lever la main puis dire, ben, nous, on serait partant pour faire une journée, par exemple, le samedi. Et oui, ça se pourrait qu'il y ait un patient qui soit appelé puis qui vous dise, ben, on vous propose de vous opérer un samedi après-midi. Est-ce que vous êtes partant?
En terminant, vous avez peut-être vu dans la presse ce matin cette enquête qui montre que des employés du réseau de la santé, là, puis ça va d'infirmières, des médecins et autres, là, qui ont accès à des dossiers médicaux. Or, ils sont pas impliqués. Il y a le cas de Véronique Cloutier qui a pas fréquenté l'hôpital Pierre-Boucher. Puis il y a des gens qui, on devine, là, par curiosité, sont allés voir son dossier médical. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, consulter un dossier médical.
Écoutez, ça, vous vous souvenez, je suis venu sur vos ondes, puis j'avais soulevé des drapeaux, je vous avais dit le projet de loi 3 à l'époque qui augmente l'accès aux données des patients, c'est une grande préoccupation, puis nous, ce qu'on disait, c'est assurons-nous d'abord que les données soient protégées et suivent le patient pour avoir des consultations médicales. Ça, c'était la priorité. Après ça, effectivement, de toute évidence, l'encadrement n'est pas suffisant, puis on souhaite un encadrement parce que pour nous, les données personnelles des patients, c'est extrêmement précieux.
Docteur Oliva, merci beaucoup. Vincent Oliva est le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on revient sur la fameuse saga de la fête des pères, des mères, la fête des parents. On l'a vu, ce qui s'est passé à Québec, des enseignantes qui prennent une initiative, envoient une note aux parents. Problème évident de com. Là, ça soulève, je vous dirais, non seulement une controverse, mais ça en est parfois ridicule dans ce qu'on peut entendre. Il y a également une école du centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord qui avait décidé de remplacer donc la fête des mères et des pères par la fête des parents. Ils ont changé d'idée. Le directeur général du centre est avec nous, M. René Brisson. M. Brisson, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être nous faire un peu la chronologie des événements. C'est arrivé comment, là, cette décision là, de changer les deux fêtes pour une fête de parents?
Ben, en fait, moi, quand j'ai su l'information, tout a débuté avec le tweet là, de M. Duhem là, hier qui a repris une communication d'une école. Où, bon, à la fin, c'était tronqué, là, où on nommait l'école. Donc, laissait sous-entendre que c'était une décision du centre de service scolaire, ce qui n'était pas le cas. Donc, quand moi, j'ai été mis au courant là, du tweet, parmi mes 44 écoles primaires, il fallait que je trouve laquelle des écoles. Puis, suite à la discussion que j'ai eue avec la direction d'école, cette dame m'a expliqué que c'était l'équipe école qui s'était assis ensemble, qui avait regardé, un peu pour les mêmes raisons là, que le centre de service scolaire de la capitale, là, les enseignants, donc pour, en bienveillance, pour il y a certains élèves, là, environ 5% des élèves qui peuvent être dans des situations où soit qu'ils vivent un deuil, soit qu'ils n'ont pas de parents, soit qu'ils sont en famille d'accueil. Donc, ils ont souhaité plus fêter la fête des parents, que j'ai appris. Je ne savais pas là, que le 1er juin était la fête des parents. Donc, on souhaitait fêter cette célébrer à ce moment-là plutôt que la fête des pères, des fêtes des mères, qui pouvaient être émotives pour certains élèves.
OK. Donc, ils prennent cette décision-là. Ils en informent les parents?
Exactement. Lundi dernier, ils ont informé les parents là, de cette décision-là.
Et est-ce qu'il y a une réaction ou des réactions des parents?
Ce que la direction me mentionne, c'est un seul parent a communiqué avec elle pour manifester son mécontentement. Puis c'est une école qui a environ 650 élèves. Donc, on peut penser qu'environ là, sur plusieurs centaines de parents, un seul parent a manifesté son mécontentement.
Un seul parent a porté plainte?
Ça s'est pas rendu au centre de service scolaire, parce que le processus de plainte, c'est au centre de service scolaire. Mon secrétaire général m'a mentionné qu'ils ont reçu aucune plainte. Mais à l'école, comme tel, il y a un parent qui parle avec la direction.
Alors, de deux choses l'une, ou ils lisent pas les communications des profs, ou ils avaient pas de problème avec ça?
Un ou l'autre, effectivement.
OK. Qu'est-ce qui fait là, que la décision est changée?
Ben, en fait, moi, suite à le tweet de M. Duhem, j'ai communiqué, comme je dis, avec la direction. Puis en échangeant avec elle, même si les intentions étaient nobles, l'idée, puisque la directrice m'a mentionné, c'est que l'idée de l'équipe école, ce n'était pas de créer une polémique. c'était vraiment en bienveillance pour quelques élèves, mais suite à ça, dans le fond, on décide, bon, plutôt que de ne pas célébrer la fête des mères ou la fête des pères, ajoutons donc au calendrier la fête des parents, parce que c'était vraiment pas l'optique de l'équipe école, là, vraiment, là, de créer cette polémique-là, là, qui est partie, comme vous l'avez mentionné ce matin, là, avec M. Trudeau, ça partit en épingle, là.
Non, ça n'a aucun sens. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que, bon, de tout temps, il y a dans les classes des enfants qui peuvent avoir un moment difficile, un père absent, un père qui est décédé, une mère qui, malheureusement, est malade. Bon, est-ce que il faut, à ce point-là, changer? Puis la preuve, c'est que là, on revient, puis on dit non, on va les garder, ces deux fêtes-là. Je comprends que pour des gens, c'est hyper symbolique puis important. Pour d'autres, ça l'est moins. La réflexion, au terme de ça, vous vous dites quoi? On continue avec les deux, on consulte davantage. C'est quoi votre position?
Ben, en fait, hier, j'étais justement en rencontre avec l'ensemble de mes directions d'école, puis c'est un peu la discussion que j'ai eue avec eux. C'est-à-dire de faire un 360, puis d'avoir une sensibilité à la majorité. Puis, en fond, je pense que la clé dans ce cas-ci, puis je pense que c'est ce qui amène les réactions, c'est que l'exception ne peut pas devenir la norme. Donc, on parle de peut-être 5% des élèves qui sont dans cette situation-là. Ben, il faut quand même mesurer l'impact de nos décisions. Puis c'est un peu ça l'échange que j'ai eu avec la direction qui a amené au fait que la direction a dit, bon, on va se rétracter. L'objectif, on l'avait pas vu sous cet angle-là.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres fêtes qui sont, je dirais, qui font l'objet d'un enjeu, d'une discussion à venir?
Je vous dirais, le message que j'ai dit à mes directions, c'est que si vous avez l'intention de pas fêter Halloween, Pâques, Saint-Valentin, Noël, communiquez avec moi.
Monsieur Brisson, merci.
C'est un plaisir.
René Brisson est le directeur général du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Je pense que c'est ça la conclusion. Ça peut arriver que dans une classe, puis moi je crois qu'on doit laisser aux enseignants cette possibilité-là pour des raisons là d'observation, de cas peut-être plus cette année-là, puis pas de façon systématique, mais que ce soit difficile pour certains élèves cette année. Comprends ça. Puis tu fais pas un plat, puis c'est pas toute l'école, puis c'est pas... Mais en même temps, là, je dirais, c'est plate de la vie, là, mais on a tous eu des moments difficiles, puis il y a des enfants qui sont, oui, en famille d'accueil, oui, des enfants de la DPJ, oui, qui le père est absent, la mère est décédée, bon. Puis en même temps, on souligne comment, on fait un bricolage, tu sais. Puis il y a moyen, puis je sais que les profs sont capables, là, d'amener ça, puis de rester sensible, c'est ça aussi la conclusion, à ce qu'il y a quand même une majorité d'élèves qui puissent souligner ce moment-là.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
On a appris ce matin que 3 policiers ont été blessés par balle à Bourget. C'est en Ontario, en fait, c'est pas très loin d'Ottawa. Et malheureusement, un des 3 policiers est décédé. On sait peu de choses sur les circonstances de cette opération policière. Mais évidemment, il y a une enquête qui est en cours. Il semble qu'il n'y ait pas de suspect recherché, que la situation demeure sous contrôle. Ça arrive au moment où, on le sait, il y a eu plusieurs événements où malheureusement des policiers ont perdu la vie. Depuis le mois de septembre à travers le Canada, dans la presse ce matin, on parle de 8 policiers. Et l'Association des directeurs de police du Québec a présenté des chiffres justement pour étayer certaines techniques d'intervention policière qui sont contestées. On a parlé tantôt avec la mairesse Valérie Plante de l'interception aléatoire. Il y a également ce que les policiers savent quand ils interviennent sur des individus qui sont extrêmement violents. J'en parle ce matin avec Pierre Brochet, qui est le directeur de la police de Laval, qui est le président de l'Association des directeurs de police du Québec et VP de l'Association des chefs de police du Canada. Monsieur Brochet, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, en savez-vous plus sur ce qui est arrivé donc à Bourget, en Ontario?
Ben, dans un premier temps, permettez-moi d'offrir mes sympathies à mon collègue Thomas Curry, qui est le chef de l'OPP, et collègues, les amis et la famille du policier décédé. Ce que je sais, c'est une violence domestique. C'est les seules informations que j'ai pour l'instant. Donc, il n'aurait pas eu de chance, là, il serait arrivé sur une violence conjugale.
OK, puis donc un policier qui est malheureusement décédé, 2 autres blessés.
Effectivement. Écoutez, on est vraiment exaspérés de ça. C'est le 9e policier décédé depuis septembre. Et c'est totalement inacceptable. Déjà, en début d'année, on avait une réunion avec l'Association canadienne des chefs. J'étais avec Thomas Carrick, qui avait déjà perdu un policier un peu plus tôt. J'étais avec Dale McPhee, le chef de la police d'Edmonton, qui venait de perdre deux policiers par un jeune de 16 ans. Et déjà, on disait assez, c'est assez. Fait que là, on ne sait plus comment dire. Vous savez, pour bien exprimer aux citoyens, il y a des gens là dans la société qui c'est des bandits ou des gens qui ont des problèmes des problèmes mentaux importants et qui ne font que des crimes de violence. Alors présentement, ce qu'on fait, c'est qu'avec le projet de loi C-75 et C-5-C-75, on demande à nos tribunaux de libérer le plus souvent possible même des individus violents. Et au niveau du C-5, on a aboli des peines minimales obligatoires, même pour des crimes reliés à des armes à feu. Fait que malgré les sensibilisations qu'on fait, on attend des résultats au niveau du fédéral. En attendant, ben, il y a des victimes, c'est des hommes, des femmes. On a eu Maureen Bro aussi qui est décédée au niveau du Québec. C'est une mère de famille de deux enfants qui n'aurait pas dû décéder. Cette dame-là, arrivée sur un appel, et c'est une personne récidiviste, problème de santé mentale, et avait à plusieurs reprises, il a été statué qu'il était un risque pour la société, puis là, il fait un meurtre sur une policière. Tu sais, fait que là, on sait plus comment dire, mais il va falloir que ça change.
OK. J'ai pas le détail, le profil concernant les décès de ces policiers, mais c'est une impression, là, je peux me tromper complètement, mais souvent, ça se passe lors d'interventions domestiques, là. C'est-à-dire, c'est un ado qui est à telle place, elle, c'est quelqu'un qui fait du tapage dans un logement. Vous me parlez ce matin d'un événement peut-être de violence conjugale. Ça ressemble souvent à se produire dans ce genre d'événement.
Ben c'est reconnu, hein. Toutes les études le démontrent. Les conflits domestiques, c'est un des événements les plus à risque pour les policiers. Mais on avait là, au cours des derniers mois, ce qu'on vit, ça va beaucoup plus loin. Là, ce qu'on vit, c'est vraiment des personnes avec des problèmes de santé mentale importants qui sont en liberté. Donc, on demande au gouvernement d'investir en santé mentale et on a un comité d'examen, une commission d'examen en santé mentale. Vous savez, quand la personne n'est pas apte au procès, elle passe devant ce comité-là. Donc, on demande de resserrer les règles aussi. Que l'individu, s'il est dangereux, qu'il reste en dedans. Puis l'autre élément, au nom du racisme systémique, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, libérer des individus violents. Vous savez, depuis 2008, les chefs à travers le Canada demandent que quand tu es un délinquant dangereux récidiviste, que c'est le fardeau de la preuve pour qu'on te libère devrait être renversé. C'est-à-dire que c'est à toi de démontrer que t'es pas un danger pour la société. En gros, c'est ce qu'on demande au niveau du fédéral. Il faut vraiment qu'il y ait des ajustements. On espère qu'avant l'été, le gouvernement du Canada va agir.
OK, on va se parler franchement, vous et moi, là. C'est le gouvernement Trudeau qui est au pouvoir. C'est un gouvernement qui croit les yeux fermés à la réhabilitation. Puis bon, on peut pas être contre la vertu. Mais tiens, on va se le dire, c'est un gouvernement un tantinet woke. J'espère que vous n'avez pas beaucoup d'espoir.
Ben écoutez, les discussions qu'on a eues avec les ministres Justice, Sécurité publique au niveau du fédéral... Sur le volet délibération sous caution en attendant le procès, ils nous ont promis d'agir. Ouais. Effectivement, on a des orientations au niveau du gouvernement là, qui, je pense, mettent à risque dans plusieurs situations là, la communauté. Là.
OK. L'autre chose que je veux savoir, là, quand on parle de ces individus violents, là, puis par exemple celui qui a tué la policière Bro, là, quand vous êtes policier puis que vous répondez à un appel, et là, est-ce que vous avez accès au dossier de la personne? Savez-vous, par exemple, que ce gars-là, ça fait 10 fois que la police vient ou ça fait 10 fois qu'il est arrêté, qu'on le remet en liberté, que bref, c'est un fou furieux? Le savez-vous quand vous intervenez?
Non, on n'a aucune information là-dessus. D'ailleurs, c'est une des priorités qu'on s'est données. Vous savez, on veut qu'il y ait au niveau du fédéral une révision de la commission d'examen en santé mentale. Puis au niveau du Québec, on travaille activement présentement avec différents ministères pour faire en sorte qu'il y ait une base de données où les policiers vont sur un appel, qu'ils soient informés qu'il y a un individu potentiellement violent qui est sur les lieux. Donc, c'est un élément. Vous savez, à la base, si le policier est informé avant d'arriver, déjà, il est mieux préparé. L'autre élément, puis ça, ça réglera pas tout. L'autre élément, c'est le suivi des dossiers. C'est quand on libère des gens, on prend une décision finalement de le libérer puis qu'il est à risque, il faut qu'il y ait un suivi serré en santé mentale pour qu'on s'assure qu'il prenne ses médicaments. Sinon, il se désorganise. Puis ce qu'on voit beaucoup, c'est la consommation de drogue dure de plus en plus et jumelée à la santé mentale qui ça fait en sorte que des gens développent des psychoses et c'est là qu'ils sont extrêmement dangereux.
OK. L'autre volet dont je parlais avec vous, c'est ce qu'on appelle les interpellations aléatoires, là. C'est associé à de la discrimination et à du racisme. Vous, vous dites, dans le fond, que c'est une technique. Là, on comprend qu'il doit y avoir un certain nombre de balises, là, mais que c'est une technique qui permet d'être efficace.
Ben, vous savez, M. Arcand, la première fois, le lendemain du jugement à Guerjot, j'ai fait une sortie publique en disant, écoutez, on est préoccupé parce qu'on sait que cet outil-là est important pour la sécurité des citoyens. On a quand même un décès par jour sur les routes au Québec et des dizaines de blessés. Et à ce moment-là, on n'avait pas de données. Donc, on disait, c'est l'évidence même. Parce qu'on, évidemment, c'est notre métier. Là, maintenant, depuis ce temps-là, considérant la situation, on a fait une évaluation. On a demandé à tous les services de police du Québec de faire une étude. Là, on constate que sur, par exemple, au niveau des facultés affaiblies, sur 3700 arrestations, et c'est pas banal là, qu'on a encore, aujourd'hui, dans une année, 3700 arrestations de facultés affaiblies au Québec. On peut pas dire que le problème est réglé, mais là-dessus, il y en a plus de 1000 qui n'auraient pas eu lieu n'eût été l'utilisation du 636. C'était une interception aléatoire. Alors ça, c'est important de le souligner, sans compter toutes les infractions au code de sécurité routière pour les gens qui conduisent sans permis. C'est vraiment pour ça qu'on... Et on comprend très bien les enjeux de profilage racial. Nous, on peut prendre l'engagement de mieux encadrer l'utilisation du 636, mais on dit que ça prend un équilibre dans une société. C'est-à-dire un équilibre entre les droits individuels, ça, c'est important. Mais là, si on prend des décisions d'abolir le 636, l'autre élément qui va arriver, vous savez, si je suis quelqu'un qui boit, consomme souvent de l'alcool au volant ou qui conduit sans permis, et là, vous savez, on a des milliers de personnes qui conduisent sans permis, la SAC nous disait qu'il y avait plus de 350 000 citoyens au Québec qui avaient des restrictions, des conditions ou un permis suspendu. Alors, il y a le risque ou la
350 000?
Qui ont des conditions sur le permis de conduire, restrictions ou suspensions. Fait que juste à Laval, il y a 20 000 conducteurs qui ont leur permis suspendu. Donc, on dit, il faut, si on enlève le 636, en plus des statistiques, c'est la crainte d'être attrapé. Si tu conduis sans permis de façon régulière ou tu conduis en boisson, il faut qu'il y ait une certaine crainte d'être attrapé. Si on enlève le 636, ben ça va prendre beaucoup plus d'éléments pour que le policier puisse t'intercepter. Fait que nous, on dit, on comprend les enjeux d'un côté comme de l'autre, mais on dit, attention, il y a un risque d'abolir ce pouvoir-là.
Monsieur Brochet, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Pierre Brochet, le directeur de service de police de Laval et aussi le président de l'Association des directeurs de police du Québec.
C'est 23.